Amis de Radio Silence, bonjour. Nous sommes le 25 novembre, un mois et demi presque, après l'élection présidentielle du Cameroun, élection très, très, très controversée qui ouvre le pays sur une crise dont on ne connaît pas l'issue, donc on ne peut pas prévoir l'issue, parce que c'est soit ça peut durer, comment ça s'appelle ça, ce bras de fer, ou alors ça peut s'arrêter brutalement, et auquel cas tout le monde sera content parce que on demande le changement, comme on dit, mais surtout au-delà du changement, parce qu'on peut demander le changement et ne pas être vainqueur de l'élection. Mais lorsqu'on demande le changement et qu'en plus on a gagné l'élection et qu'elle est truquée, ça laisse quand même un goût amer. Hein. Ça laisse un goût amer. Et forcément, c'est vrai que on peut critiquer, c'est facile hein, de dire que oui, mais il s'attire au mât, le président est élu, que ceux qui ne l'aiment pas vont dire oui, mais il a embarqué les gens dans une histoire. Et ceux qui l'aiment bien vont dire non, non, il faut résister. Et c'est bien sûr qu'il faut résister. Bien sûr, il faut résister. Et pour empêcher que cela se fasse de manière naturelle, si on peut dire ainsi, c'est-à-dire quelqu'un qui a été volé et qui demande justice, vous avez d'abord la répression gouvernementale qui s'est abattue sans pitié. Et là, c'est vrai que ces derniers temps, ils ont reculé un peu. Heureusement, il y a le tribunal pénal international là, et la menace des avoirs, le gel de leurs avoirs à l'étranger, et surtout aussi ce que la population peut faire. Bon, ils ont reculé et il y a cette histoire de ville morte que le président élu, M. Tiroma, envoie, parce que de temps en temps, c'est aussi une façon de s'exprimer. Hein, que voulez-vous? Lorsque une élection se termine, normalement, le gagnant peut dire, bon, ok, j'ai gagné, on laisse tomber. Mais non, le gagnant ici au Cameroun est dans une position, il est déchaîné, quoi. Il est déchaîné contre toute personne qui peut avoir une influence et qui est pro-Tiroma. Alors, c'est extraordinaire. Bon, on arrête tout le monde, enfin, tous les opposants qui se connaissent entre eux. Bon, pour une fois, peut-être que la diaspora ici, elle sera épargnée parce que c'est bien aussi qu'ils fassent qu'ils n'entendent pas la diaspora sur place. Comme ça, il y a deux façons de combattre un opposant. Soit vous l'ignorez, il n'existe pas, vous n'en parlez jamais. Ça, c'est la façon très israélienne de faire les choses. Soit vous le traquez. Voilà, c'est les deux façons de faire et on ne peut pas faire autrement. Vous traquez ou vous opposez le silence, mais en fait, c'est un silence hypocrite, puisqu'en fait, vous ne pouvez pas vous empêcher de suivre ce que cette personne que vous voulez taire fait. Alors, ça laisse un peu une marge à certaines personnes aussi de dire des choses qui ne sont pas catastrophiques, bien sûr. Vous écoutez Flash sur le monde d'Élise Mbock depuis le Cameroun. Donc, on est un peu blasé, pas seulement par ce qui se passe au Cameroun, mais parce que c'était la règle depuis ces fausses indépendances. Et qu'à un moment donné, au bout de 60 ans, c'est fatigant. C'est fatigant, d'ailleurs, sur le plan intellectuel, on est carrément abattu parce de voir que des gens, parce que quand vous regardez ce gouvernement, on vous dit qu'ils ont des masters, bon, encore que le master, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, ils ont un profil quand même de gens qui sont allés à l'école, supérieur, niveau supérieur, et qui se comportent comme des gangsters de tous les jours. Donc il n'y a plus de différence aujourd'hui entre un homme politique et un gangster du quartier, un dealer, c'est la même chose. Et donc c'est, vous dites tout ça pour ça, on est un peu abattu parce que on a beaucoup critiqué la présence des anciennes métropoles ici, oui, les influences, mais quand on finis par voir comme en fait, c'est vrai, il y a peut-être de ça, mais c'est trop de servilité. J'aurais même dû regarder un peu de l'ouvrage de la Boétie, le discours de la servitude volontaire. Voilà, c'est ça que j'aurais dû regarder parce que tout d'un coup, c'est cet ouvrage-là qui me vient à l'idée, le discours de la servitude volontaire. Donc, les dirigeants, vous voyez, il y a un schisme, déjà on l'a compris, entre les peuples africains qui, intuitivement et instinctivement, ça c'est humain, savent ce que c'est que la justice, ce que c'est que être juste, ce que c'est que être efficace, ce que c'est que tenir ses promesses, bon, et ce que c'est que la hiérarchie aussi, ils connaissent tout ça. Mais de l'autre côté, vous avez cette élite. Je sais pas, on appelle ces élites, hein, qu'est-ce qu'on va dire, d'autres, qui est totalement servile à l'Occident. Je suis pas sûre même que je ne suis plus sûre que l'Occident a besoin d'une telle servilité. Mais voilà, on a ça ici au Cameroun de façon exemplifiée. C'est-à-dire que vous faites 43 ans au pouvoir. Vous avez changé la constitution entre-temps pour être président à vie, parce qu'une fois que vous avez changé la constitution, que vous n'avez pas limité les mandats, vous ouvrez la porte au grand n'importe quoi, puisque ce monsieur, pour se maintenir au pouvoir avec toute sa clique, il est obligé de passer par le gangstérisme. Je sais pas, il y a chez beaucoup de gens aujourd'hui des politiques. Une forme d'arrivisme qui fait qu'ils ne conçoivent pas la vie autrement que par la gloutonnerie des biens publics, le détournement des biens publics. Ils ne conçoivent pas parce que ils n'ont pas de métier, ils n'ont pas appris à travailler. Et après, ils ne voient plus parce qu'ils sont déjà installés dans le luxe. Et bon, le luxe, c'est, on dit la vanité, mais quand même, ça plaît beaucoup, c'est facile, vous ne travaillez pas, vous ne foutez rien. Et vous voulez comme vous voulez, vous mettez de côté. Puis, on est engagé dans une spirale diabolique. Et ici au Cameroun, ça atteint des proportions que vous ne pouvez même pas imaginer. Nous sommes là, il y a beaucoup, il y a une milice qui est chargée là dehors. Pas seulement une milice, parce que ça touche même tous ceux qui passent à la télévision, qui se présentaient même comme des pseudo-opposants. Ça les touche, ils commencent à dire des choses. J'ai retenu aujourd'hui quelqu'un qui parlait, oui, parce qu'ils veulent minimiser la victoire de M. Tchiroma. Alors, pour la minimiser, on a fait monter au créneau certaines personnes qui, avant, se disaient l'opposition et qui disent des choses complètement insensées, mais le Camerounais n'a pas honte, hein, donc on ne peut plus. Et non seulement il n'a pas honte, il a vécu dans un système qui n'a aucun horizon moral. Il n'y a pas de morale ici. Voilà, c'est tout. C'est qui le bien, le mal, ça n'existe pas. Mais ça, on le pressentait déjà un peu. Mais ici, c'est le summum de la médiocrité. Dans cette émission, bon, je ne vais pas être théorique, elle va juste dire deux ou trois choses. Parce que maintenant que Monsieur Tiroma, qui a même réussi à faire une chose extraordinaire, il a cassé la porte, voilà, le bunker, hein, là il va entrer, et les gens peuvent parler, et les choses peuvent sortir, et c'est récemment là, quand le président faisait sa propagande un peu partout, sa fille, totalement déséquilibré. Un jour, elle vient et pleure. Oui, ça va pas, on va me tuer, sauvez-moi. Et puis un autre jour, oui, elle est avec son père, elle aime son papa. Voilà, c'est toujours ça, ça a été ça pour embrouiller les gens. Et elle est donc lesbienne. Le Cameroun ne reconnaît pas l'homosexualité, mais toujours est-il dit que là, qu'est-ce qu'ils ont fait au lendemain de la prestation de, je sais pas, de serment du président qui veut pas sortir. Il a. On l'a vu arriver, il paraît qu'il y a eu des dépenses extraordinaires. Ils ont commencé à présenter un visage de mépris qui écrase le peuple. Il n'y a aucune forme d'humilité de ce pouvoir, déjà qu'ils faisaient des choses, mais alors là, ils ont accéléré le mépris. Donc, elle est venue voir une fille qui ne représente rien du tout, parce qu'elle est fille du président, c'est tout, hein. Et c'est comme ces premières dames, pareil. Ce n'est pas une fonction, c'est des choses qu'il faut rayer, ça. Et elle est arrivée, elle a fait inviter, pareil, qu'il y a un jet privé qui allait chercher sa petite amie. Elle est venue, ils ont fait, tout ça a été tout un cirque, toute une mise en scène. Quel était le but de ça? Elle est allée poser avec des gars qui sont des journalistes, qui sont supposés être homosexuels. Bon, quel est le but de ça? Vous pouvez pas, je peux vous dire déjà le gouvernement dans quelle forme d'errance il se trouve. Vous pouvez pas dire que vous êtes contre l'homosexualité, interdire l'homosexualité, et puis en même temps, qu'est-ce que vous mettez devant? C'est votre fille homosexuelle et avec sa copine qui vient. Il paraît qu'il y a eu des sommes énormes dépensées pour montrer aux gens que voilà, c'est nous qui dirigeons le pays. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Ça, c'est la brutalité, et la violence symbolique, hein, vous connaissez bien, du pouvoir. Bon, la force symbolique, c'est pareil que la violence. Du coup, puisque c'est ça, Monsieur Tiroma, le président élu, a nommé une porte-parole, Madame Alice Combe, avocate, maître, pardon, avocate, qui a cette particularité d'avoir défendu les homosexuels au plan international, et même ici, elle a défendu cette cause au nom de sa conception des libertés. Elle a raison. Alors, ça fait qu'on se dit que ben, peut-être qu'elle aussi, elle est. Hein? Mais c'est la réponse du berger à la bergère. Tu nommes celle-ci pour faire la promotion de l'homosexualité qui est interdite au Cameroun. Et moi, je te nomme la pareille en face, un vrai qualifié professionnel, parce que Brenda, la fille du président, elle représente rien du tout, sauf ce qui est très en vogue en ce moment. Vous savez, vous traînez par là, on les appelle quoi, je sais pas, ou influenceuses ou quoi, vous traînez par là, vous glandez que du vent, vous tournez, vous consommez l'argent. Bon, c'est même pas le spectacle dans son cas, c'est pas la société du spectacle, c'est la société du vide, l'ère du vide. Et qu'est-ce que l'homosexualité vient faire dans cette histoire de crise post-électorale et de revendication de l'élection? L'homosexualité vient parce que ben, le gouvernement est sous pression internationale, et comme à l'international, l'homosexualité LGBT plus avait la côte, il faut donc qu'ils essayent par des moyens détournés, c'est toujours un détournement des sentiments sur la voie publique. Donc c'est toujours ça, on va montrer donc à l'étranger qui fait pression sur nous pour qu'on quitte le pouvoir, on va leur montrer que vous voyez, ne vous inquiétez pas, la cause, la grande cause qui vous tient à cœur, et Emmanuel Macron ne va pas démentir, la grande cause qui vous tient à cœur, c'est-à-dire l'homosexualité, voilà, nous on va faire la promotion de ça, c'est une façon de dire avant l'heure qu'on va accepter cela. Donc, pour que vous nous laissiez tranquilles, tranquillement, appauvrir les Camerounais et tout, et tout. Vous voyez un peu le genre de deal machiavélique que le gouvernement fait pour se maintenir au pouvoir parce qu'il sait qu'il a triché. Rien que cette force, cette sortie en force comme ça pour écraser les Camerounais par un luxe insolent, alors que là, déjà, c'est la saison sèche. Je ne vais pas vous montrer le nuage de poussière qui commence à s'élever. C'est l'enfer! Moi, j'ai des boutons partout là parce qu'un jour, je me suis lavé avec une eau incertaine et depuis, je souffre. Je ne sais même pas comment faire partir tout ça. C'est incroyable. Il y a quelqu'un qui disait, il était invité, je ne sais plus dans quelle télé là, et il disait que ça fait 2 semaines, il ne se lave plus. Peut-être que c'était de l'humour, mais on arrive là où on fait comme avant à l'étranger. On s'essuie quoi. C'est pas, on fait la toilette comme ça, au moins on a une bouteille d'eau bien propre, bien sûr, parce que pour se laver, ce n'est pas possible. L'eau est. C'est terrible. C'est le plus grand facteur de pollution que moi j'ai vu, cette histoire d'eau là. On peut encore manquer d'électricité, mais vraiment, l'eau, c'est la vie, tout le monde le sait. Alors vous avez. Oh non, c'est. Alors on arrive à la gouvernance. La gouvernance, juste quelques exemples, hein, parce que quand on a fini de dire que M. Paul Biya était très aimé, d'ailleurs quelqu'un allait voir, il a dit ben, n'importe quoi, les 20 départements où il a été élu, ce sont les départements pour lesquels on affiche un taux de participation allant jusqu'à près de 96% dans certaines localités, et alors que la moyenne. De participation et de 53. 10%, la moyenne nationale. Alors, comment on fait dans les 20 départements sur lesquels on n'a pas les PV? Monsieur Tiroman n'était pas représenté là-bas parce que ça ne servait plus à rien. Et c'est dans ces 20 départements-là qu'il a monté le taux de participation pour justifier le bourrage des urnes après coup. C'est malin. Et, qui vote pour lui? Qui peut voter pour lui? Alors, quand on regarde la gouvernance, on a ces derniers temps, ah oui, l'ENAM, l'équivalent de l'ENA. Et qu'est-ce qu'on a? On a la liste des, la liste des admis. Voyez une école comme ça. Et on voit que la fille du président, et puis c'est pas son fils, sont admis à l'ENAM. Ah ouais? Ils ne sont jamais présentés à l'examen, ils n'ont pas fait de candidature. Bah, ils sont admis parce que, et pas seulement eux, c'est qu'il y a toute une série de noms qui sont, dont les pères sont en fonction, des hautes fonctions, des hautes personnalités. Donc on veut assurer l'héritage, hein, les héritiers de Pierre Bourdieu. On va assurer l'héritage par l'admission, comment on va dire, occulte dans une école prestigieuse comme l'ENAM, dont on nous dit par la suite qu'en fait, pour y entrer maintenant, vous devez payer entre 20 et 30 millions. Voilà, donc ce n'est pas votre mérite, c'est d'abord votre héritage, votre père est quoi, et puis en plus, je ne sais même pas si c'est ces élites la payent, parce que peut-être au final, c'est pour ceux dont les pères ne sont pas X ou Y. Donc on a ce scandale qui vient d'arriver. Sans honte bue, hein, voilà, les dames Brenda qui erre là depuis, non mais c'est pour dire que les gens parlent de méritocratie, il n'y en a plus. Aujourd'hui, le meilleur profil politique, c'est bandit ou voyou ou dealer. Ça, c'est l'exemple en cours. Puis on a les choses, je vais citer deux ou trois choses les plus significatives parce que au niveau de la gouvernance, c'est vraiment une hémorragie. Ça sort, ça sort, ça sort. Eneo, qui est la société l'équivalent de EDF ici, le Cameroun avait vendu un groupe qui s'appelle AES, la société qui s'appelait la Sonel, à ce groupe-là pour 23 milliards. Ici, on parle qu'en termes de milliards, attention. Les détournements, c'est à partir du milliard. Et le Cameroun, le Cameroun, l'AES, cette structure a revendu la Sonel à Eneo pour 99 milliards et que le Cameroun aujourd'hui rachète Eneo, bon, on a dit 78 milliards, mais plus 800 milliards de dettes. Voilà. C'est une bonne affaire, hein, vous passez, vous vendez une affaire qui a commencé à 23 milliards, finie à 878 milliards de dettes parce que Eneo a demandé à arrêter puisque elle a des factures, l'administration ne paye pas. Donc, elle ne peut pas suivre. Nous, on accuse Eneo, oh, tu fais pas ci, tu fais pas ça, tu fais pas ça. Eneo ne peut pas parce que l'État est le plus grand débiteur, il ne paye pas. Et ça fait suite d'ailleurs à cette démission d'Eneo qui distribue l'énergie, mais ce n'est pas aux populations. Elle est embêtée parce qu'on vient de construire un barrage à Nactigal, lequel barrage a foiré. Comme d'habitude, ça fait partie, hein, les projets qu'on initie, mais qu'on ne suit plus, mais dont on sait d'avance que ça n'ira pas plus loin, mais là c'est grave parce que Eneo attend l'électricité, ça ne vient pas, il ne peut pas distribuer. On dit Eneo, devant la catastrophe de ce que c'est que ce barrage Nactigal, qui fait que d'ailleurs il y a une clause, hein, c'est-à-dire qu'au début, je ne sais pas combien de milliards on leur a donné, peut-être 800, c'est comme ça, ils n'ont pas pu finir l'ouvrage comme il fallait, mais seulement ils ont pris des précautions en disant qu'après, au bout d'un certain temps, des délais, ils estiment qu'ils ont livré le barrage, il faudrait donc leur payer 10 milliards par mois pour exploiter tout cela. Alors, c'est incroyable. C'est incroyable. Après, on dit, oh non, l'ère des informations est passée. Non, mais c'est le président Biya qui veut reprendre les éléments de sa souveraineté. Donc, il achète Eneo. Mais il ne rachète pas Eneo, Eneo en a marre. Eneo en a marre parce que c'est. On a beau être un blanc, à un moment donné, on n'en peut plus. Enfin, on n'en peut plus. On a quand même un minimum d'exigence, même dans cette cacophonie, dans ce flou obscur, non, le clair-obscur. Et. Puis, d'une manière générale, au niveau des infrastructures, C'est tout d'ailleurs sur les infrastructures, les grandes critiques qui arrivent parce que ces infrastructures sont avaleuses de fonds incroyables et font qu'au final, le Cameroun n'est pas productif, il n'est pas efficace et n'en parlons même plus de concurrence du tout. Alors, le scandale Glencore, vous avez peut-être entendu parler de cela, ce scandale qui vient de la société, je sais pas, des accords de la société des nationales des hydrocarbures du Cameroun. Donc, Glencore avait pour rôle d'aider à tout ce qui est exploitation donc de l'énergie, des matières énergétiques, et puis quoi, le pétrole et tout et tout. Et Glencore a été, comment on va dire, la justice britannique a sanctionné Glencore pour sa corruption et tous les trafics de détournement d'argent organisés avec la SNH, la Société nationale des hydrocarbures du Cameroun, donc corruption, surfacturation et détournement de fonds publics. La justice britannique a condamné Glencore à payer 11 000 milliards à l'État camerounais. Vous vous rendez compte du niveau du détournement? Pourquoi? Parce que la SNH, ses revenus sont, qui s'occupe du pétrole, du gaz et des extractions minières, ses revenus sont hors budget. On ne sait pas comment c'est fait, mais apparemment, il y avait eu des sociétés écrans, des hommes politiques qui faisaient que l'argent était détourné systématiquement dans les paradis fiscaux quand il n'a pas été exploité ici via la création des stations d'essence. Vous voyez, hein, c'est tout un micmac. Et pour couronner le tout, on se rend compte que le secrétaire général de la présidence est en même temps le président du conseil d'administration de cette SNH. Des fonctions qui doivent être incompatibles, mais qui sont nécessaires pour pouvoir capter la totalité du budget et d'organiser les détournements facilement parce qu'il n'y a aucune visibilité. Et enfin, parce que je ne vais pas tout citer, il y a des choses qui arrivent qui sont terribles. Et enfin, on a les infrastructures. Dans l'infrastructure, on a pris l'exemple de l'autoroute Bibody, Yaoundé, on va dire, parce que vous n'allez pas vous trouver dans les quartiers, jusqu'à Bibody. Bibody, c'est à 4 km de chez moi. Là, l'autoroute, en fait, c'est l'autoroute qui est censée relier Yaoundé à Douala. Alors, cette autoroute, ça date, hein. On a fait que jusqu'à présent, il paraît qu'il n'y a que 64 km de fait sur 141 km. Ça fait peut-être 10 ans que l'affaire est lancée, mais ça ne prête pas conséquence. Tout le monde s'en fout. Et, enfin, tout le monde s'en fout, tout le monde crie. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire. Et alors, ce qui est surprenant, c'est que une fois qu'on a fait, alors je veux voir. Une fois qu'on a fait ces kilométrages, j'essaie de retrouver un peu, si j'ai pris une autre vite fait, la deuxième phase, la première phase de 60 km a coûté 350 milliards, et la deuxième phase, pour, oui, 60 km, 350 milliards, la deuxième phase, il y a ce 141 km, va coûter 880 milliards. Alors, quelqu'un a calculé, il a dit que ça faisait environ 1 km à 6 milliards. Alors que dans le même temps, à Abidjan, le taux est vraiment très très bas. Et puis en Guinée aussi, pareil, qu'ils ont fait 200 km de route avec 300 milliards. Donc on a déjà, faut retenir, et c'est un projet qui date de 10 ans, 60 km en 10 ans. Alors, quelqu'un a calculé, si on rapporte tout ça au maillage national qui est exigible, parce qu'il faut bien que le pays fonctionne pour que l'économie décolle, ça fera combien d'années? Vous calculez peut-être que 10 ans pour 60 km, après on a le temps. Et. Parce qu'au niveau, je cherche les chiffres, au niveau du maillage international, on sera passé à 141 km, hein, qui vont rester. Hein. On est à 121 000 km pour réaliser le réseau routier du Cameroun. 121 000. Donc, si on calcule, il nous faudra 4 siècles pour couvrir les 121 000 kilomètres de réseau routier camerounais. Voilà, c'est des choses, il faut essayer de les prendre mollo-mollo parce qu'après, votre cœur risque d'y rester. C'est tellement, vous serez énervé. Et puis, il y a l'autoroute aussi, Simalène, c'est Yaoundé, l'aéroport de Simalène. Yaoundé, quelque part, il y a une bretelle pour y aller. Mais la fameuse autoroute aussi date de 10 ans. On cherche encore l'argent, on a pris un emprunt, je ne sais plus de combien. J'ai même plus retenu les chiffres parce qu'après, ces chiffres vous énervent. Qu'on finira, on ne sait pas quand, peut-être, parce que ça fait 10 ans là, alors je crois que c'était même peut-être 30 kilomètres. Je ne sais pas si ça fait même 30 km qu'on a pu faire. Vous avez toutes ces shortcomings, comme on dit en anglais. Et quand le FMI arrive, ils sont plutôt complaisants, machin. Bon, bref, le Cameroun n'est pas un environnement sûr pour l'investissement, d'autant plus que entre les défaillances des services publics qui ne payent pas les dettes aux opérateurs et les impôts qui sont prohibitifs et qui font que l'économie reste informelle plus qu'autre chose, parce que si vous déclarez, vous êtes mort. Hein. Ça, c'est un peu comme la France. Le pays n'est pas attractif pour les investisseurs de l'étranger. Mais en ce moment, ce dont on a le plus besoin, ce n'est pas l'investissement étranger, c'est comment l'État camerounais lui-même, et c'était ça l'enjeu de l'élection, comment l'État lui-même ici, non seulement reprend sa souveraineté, si c'est possible, mais comment il va créer l'emploi? Comment il va sortir la dette? Il fait que s'endetter. Il n'est pas possible de payer les fonctionnaires, là. Je crois qu'on va arrêter certains projets qui étaient prévus, routiers notamment, pour pouvoir payer quand même les fonctionnaires. C'est le mois de décembre, on ne peut pas faire autrement. Entre-temps, le cacao qui avait monté, parce que c'était une façon d'attirer les gens, le prix avait explosé. Là, le prix est déjà de moitié, peut-être qu'il baissera plus. Bon, c'est toujours comme ça, c'est toujours comme ça. Donc, tout dans la gouvernance est orienté au vol, au détournement des fonds publics pour enrichir une caste qui est déjà riche. Et les hôpitaux, on n'en parle plus. Il y a un argent fou. Le Cameroun produit donc, vous voyez, le cobalt, le fer, l'or, le diamant, beaucoup de ressources minières. Mais où va cet argent? On ne sait pas. On ne le voit pas, on le voit nulle part. La bauxite, potentiellement très riche, mais le peuple souffre. Alors, ça a désespéré de tout. Après, on dit, oh, monsieur Tiroma, il n'a pas fait ci. Pour cacher tout cela, les scandales sortent au jour le jour. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Vous rendez compte? Les sommes d'argent balancées, balancées, qui disparaissent, qui existent, qui disparaissent. Vous comprenez rien. Et de cela, il ne faut pas en parler parce que non, la désinformation va venir couvrir tout ça. Oui, mais le président. Alors, on est quand même surpris. Ça, c'est la surprise que moi, personnellement, j'arrive même pas à digérer. Comment un seul Camerounais, je parlais avec un jeune, là, il me disait, oui, mais Chiroma, ça, c'est comme on dit, il est à l'étranger, qu'est-ce qu'il peut faire à l'étranger, il a fui. Bah, et vous vouliez qu'il fasse quoi? Qu'il reste là et qu'il se fasse tuer? Il est leader d'un mouvement. Actuellement, bon, les enfants ont été tués. Il fallait qu'il fasse quoi? C'est pas lui qui tirait dessus. Il a quand même fait ce qu'il fallait maintenant pour dire le prochain qui tire, on a la liste. On a la liste de tous les noms. Donc on ne tire plus à balles réelles sur les manifestants. Il est à l'étranger. En ce moment, on dit qu'il est en Gambie. Alors, la Gambie aussi a une histoire qui ressemble beaucoup à son histoire. Il faut qu'il fasse quoi? L'exemple le plus terre à terre, c'est toujours de dire que avant beaucoup de je veux dire, les gens comme Victor Hugo, ils étaient en exil, ils s'exilaient. Et de là-bas, ils envoyaient les missiles, comme on peut dire, si on peut dire ainsi. Général de Gaulle, cas classique. Ici, Londres, les Français parlent aux Français. Je ne peux pas imiter le général parce que. Il est inimitable dans sa prestance théâtrale. Lui, c'était autre chose, hein, avec la dignité, bien sûr. Et puis, ça, c'est le code de l'honneur militaire qu'il y avait avant, qu'il n'y a plus maintenant, parce que même le complexe militaro-industriel, c'est devenu une bande aussi de. Il y a quelqu'un qui a avoué que pour passer en grade dans cet ordre-là, il fallait adhérer à la franc-maçonnerie. Sinon, vous aviez le plafond de verre. Donc, le plafond de verre, ce n'est pas que pour les immigrés, c'est pour tout ça. Voilà. On est ici en Afrique, tous nos dirigeants sont bien sûr. Marge à la franc-maçonnerie, d'où que c'est la franc-maçonnerie qui, vous savez, le nouvel ordre mondial, ce sont ces critères qui continuent à ça, qui s'appliquent aussi ici, c'est-à-dire qu'on détourne tout l'argent et une forme d'eugénisme, hein, une forme d'eugénisme qui dit pas son nom. Et puis bon, les pauvres, si plusieurs peuvent mourir de maladies, dues à l'eau, dû au paludisme, parce que oui, dans tout ça, j'ai aussi depuis quelques jours un palu. Ils peuvent mourir de pauvreté parce qu'en allant à l'hôpital, il faut payer, il n'y a aucune couverture médicale, ça ne les intéresse pas. Donc il y a une forme ici. Quand ce n'est pas le Covid, mais c'est le Covid qui continue en Afrique, les gens meurent. C'est clair, les gens meurent. Et puis c'est le but, éliminer le maximum. Donc pour éliminer le maximum, il faut appauvrir les gens. Pour appauvrir les gens, il faut que l'élite de ces pays-là soit d'accord, c'est-à-dire tenue. Ben, je ne suis pas sûr que ce n'est pas tenue, parce que c'est pour ça que je parle. Non, c'est la servitude volontaire. Vous n'êtes pas obligé d'aller adhérer à la franc-maçonnerie. Que l'on sache, M. Traoré, il n'est pas du Burkina, et puis ceux du Niger et du Mali, c'est bon, c'est des militaires, hein. Ils sont pas, on ne sait pas, mais je crois pas, parce que eux, ils font le contraire du nouvel ordre mondial. Bon, mais ici au Cameroun, c'est les principes que Macron applique à la France qui s'appliquent ici, de ce qu'ils ont prévu comme nouvel ordre mondial. Mais alors, le problème, c'est que le Cameroun, ça fait 43 ans. C'est trop, c'est même inimaginable, inimaginable. Et pendant longtemps, ils ont étouffé la population par une tyrannie, une brutalité. Les gens étaient pétrifiés. Bon, là, ils ont dit qu'ils détestaient la diaspora. Ah, sans la diaspora, que pouvaient-ils faire? Que pouvaient-ils faire? C'est la diaspora qui tient ce truc. Alors, si la chance, elle est loin, parce que ici, ce serait, bon, peut-être pas aussi, parce que là, c'est le débat actuel. Pour terminer, le débat actuel, c'est. Quelle est la forme que cette lutte va prendre face à cette violence du gouvernement? Quelle est la forme? Est-ce que ça va être une forme armée? Est-ce que ça va être une partition du pays où M. Tshiroma, qui a l'avantage d'être du Nord, le Nord est très grand et ce sont eux, c'est eux le grenier du Cameroun, ou alors on va rentrer dans une forme d'action, genre on va cibler les personnes les plus enfin, les plus luciférienne. Je ne sais pas quelle est la forme, c'est le débat, que cette résistance et cette révolution peut prendre avec le président élu qui opère depuis l'étranger. Oh, on annonce des villes mortes là pour lundi, mardi, mercredi, je crois. Enfin, on est quand aujourd'hui? Je ne sais plus quand ils ont annoncé les villes mortes. Je crois que c'est la semaine prochaine. Il y a 3 jours de villes mortes annoncées. Ça va être difficile toujours parce que les villes mortes, une fois qu'on les annonce, les préfets et sous-préfets montent au créneau dans les grandes villes et vous intiment l'ordre d'ouvrir votre boutique, sinon on pose les scellés et puis pour vous, c'est fini. Alors voilà, on joue à tout ça. Et la liberté est très difficile à trouver. Tout le monde peut être arrêté à tout moment. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit. Et c'est une désolation qui n'a pas de nom parce que si le président Biya avait été là seulement pour 2 mandats aujourd'hui, on pourrait comprendre. Mais s'il a fait 43 ans sans partir, c'est que c'est plus lui. C'est ce système-là qui s'applique à lui. Et Dieu merci, et Néo jette l'éponge parce que, comme c'est des filous, une fois que vous êtes ici, vous vous rendez compte que vous aussi, vous pouvez subir des choses. Donc, on vous revend vos merdes, vous prenez vos sociétés avec les dettes, et puis nous, on s'en va. Ce qui n'est pas Laurent. Enfin, ça laisse une grosse incertitude parce que, entre une société privée qui peut être performante et un service public dont on sait d'avance qui n'est pas rendu, le Cameroun n'a pas les moyens de gérer convenablement un service public parce qu'on le gère à l'aveugle, il n'y a pas d'indicateur, d'accord? Il n'y a pas un cahier de charges, il n'y a pas de suivi ici. C'est l'opacité, c'est comme ça, et comme ça, on ne sait rien. Circuler, il n'y a rien à voir. Le citoyen, depuis tout à fait, comment je vais dire, il y a un terme militaire là, je l'oublie là tout de suite, ben, il est renvoyé à ses affaires là-bas, du village, comme on dit, ou je ne sais pas d'où. Il est démobilisé, voilà, c'est le mot. Il est démobilisé, il doit se réarmer. Et je pense que je crois que M. Tiroma n'a pas prévu, personne n'aurait pu prévoir en fait, que ce gouvernement de 43 ans allait vouloir, allait être encore prêt à faire enfin, la machine gouvernementale, ben, ce n'est même pas eux, et la machine du nouvel ordre mondial était prête à broyer tout pour sa mission, son agenda, comme on dit. Ah, c'est. Ça pas de nom. Là, vraiment, pour terminer, le ministre de l'administration territoriale, qui lui est vraiment en tête devant un chef terroriste, il ouvre ses grands yeux comme ça, il menace tout le monde, il enferme tout le monde. Et aujourd'hui, enfin récemment, là, il se met à citer la Bible. Ça va, ils sont allés à l'église dimanche, comme par hasard, à Yaoundé, et puis vient nous sortir aujourd'hui, là, peu de temps après, des cite Matthieu, cite. Il peut citer qui dans la Bible? Qui peut-il citer dans la mesure où les 10 commandements qui sont la base de la foi chrétienne, en dehors bien sûr la résurrection qui est le point d'orgue, qu'est-ce que les 10 commandements disent? En dehors des premiers commandements, déjà même dans le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est lui qui a envoyé tirer sur les enfants. Et les autres commandements qui défilent, tu ne voleras point, tu ne porteras point de faux témoignages. Hein? Etc., etc. Rien que ces deux commandements, ça le condamne à fermer sa bouche sur tout ce qui concerne l'Église, Matthieu et tout, bien citer la Bible. Et le gars, il vous tue, Satan, et après, il vient citer la Bible. Une moquerie de plus. Je crois qu'il y a un évêque qui lui a répondu, il faut arrêter. Donc, nous en sommes là où, voilà, je vais encore penser à un autre ouvrage, ça va être 1848, ou, je sais pas, c'est 48, non, c'est 84. 1984, et où de Orwell, où la meilleure image, c'est ça, un soldat, vous êtes couché par terre, et puis le soldat, il appuie sa botte sur votre gorge. C'est ça qu'on fait pour vous humilier et vous réduire à rien. Amis de Radio Silence, vous avez écouté Flash sur le monde d'Élise Bock depuis le Cameroun. Je vous dis à bientôt.